Un homme que le monde connaîtrait plus tard sous le nom de Thomas de Quincey, mais qui, au moment où nous prenons l'histoire en marche, a de lui-même cette image floue qui est la seule réalité, descend les rues d'un quartier pauvre dans une ville qui doit être Londres, avec cette assurance qu'on attribue au somnambule et que lui-même, s'il y pensait, mettrait au compte des quelques gouttes de laudanum qu'il a pu boire, comme chaque samedi, au sortir de lectures abstraites, pour dissiper l'effet physique imaginaire d'un mal lointain. Ses pas le conduisent vers les rues où stationnent les prostituées. Ce qui l'entraîne dans ces parages n'est pas tant le désir que cette espèce de goût du vide qui accompagne les grandes fatigues. Cet homme, donc, Thomas de Quincey, gardons-lui par commodité le nom qu'il se donnerait lui-même si on lui posait la question, arrive maintenant à la hauteur de l'endroit où se trouvent ces femmes, et, obliquant vers l'une ou l'autre des ruelles où elles font le guet, dirige ses pas vers l'une d'entre elles, qui, dans l'ombre d'une porte cochère, attend indifférente le client, lui ou un autre. Il aborde la fille, échange avec elle quelques mots, puis il acquiesce d'un signe de tête et monte derrière elle en silence. Quelques moments plus tard, l'homme redescend l'escalier, seul. Quand il se retrouve dans la rue, il se met soudain à penser avec une telle intensité à cette femme qu'il vient de quitter, qu'il ne doute pas un instant d'être tombé amoureux d'elle. Bien plus, il réalise à l'instant même que cet amour est le seul véritable qu'il connaîtra jamais de sa vie. Sur le moment, il ne lui vient pas à l'idée de retourner sur ses pas, mais il essaie de toutes ses forces de rassembler ses esprits et de fixer dans sa mémoire l'image qui l'a bouleversée. C'est alors qu'il se rend compte soudain qu'il ne se rappelle plus ses traits et que la scène qu'il vient de vivre est comme sans réalité. Il se persuade peu à peu que celle qui a croisé son chemin était très jeune, presque une enfant, et croit se rappeler son nom. Elle lui a dit qu'elle s'appelait Anne. Oui, Anne. Maintenant il s'en souvient. Il n'est même sûr que de cela, il croit entendre sa voix. Il répète longuement ce nom, comme si le fait de le répéter pouvait l'aider à se rappeler à quoi ressemblait Anne elle-même. Mais les détails des vagues ébauches qu'il ne cesse de recomposer sont froids et sans rapport entre eux, inconsistants, fantomatiques. Il passera un certain temps à rechercher la fille dans Londres. Un jour, enfin, il renoncera à l'idée de la retrouver. C'est alors qu'il entreprendra de raconter son histoire. Oui, la sienne, l'histoire de Thomas, Thomas de Quincey, l'opiomane. N'est-ce pas ainsi qu'on les raconte ? Les aventures qui vous arrivent, en les enrichissant de détails afin d'y croire tout le premier. Comme si, de fil en aiguille, au bout du compte on espérait, à raconter ainsi sa vie, réussir à devenir quelqu'un, c'est-à-dire à être le héros d'une histoire dont on est l'auteur. Mais nous, n'est-ce pas, comme lui au fond, il n'y a qu'Anne qui nous intéresse. Et c'est pourquoi cette histoire-ci ne porte pas d'autre nom que le sien.